c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'Autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée le mardi à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté Béatrix. Bonjour Béatrix.
Bonjour Eduardo.
Et à la technique, Antoine. Au sommaire de cette semaine, nous avons vous parlé de la journée Miraval. C'est comme ça que je préfère vous aller découvrir. Ensuite, nous allons parler du Chili au sujet des élections bientôt. Et nous allons nous occuper du Brésil avec la COP 30 et des problèmes avec les peuples autochtones. Ensuite, France-Colombie au sujet du narcotrafic. Il y a une visite justement d'un ministre en Colombie, un ministre français. Et à la fin, vous allez être surpris. Moi-même, j'étais surpris de trouver quelqu'un que vous allez découvrir. Je laisse la parole à Béatrix pour nous parler de la journée Miraval. Pourquoi Béatrix?
Oui, c'est en République dominicaine. Depuis 1981, celles et ceux qui défendent les droits des femmes à travers le monde organisaient chaque année, à la date du 25 novembre, une journée de lutte contre la violence sexiste à la mémoire de trois sœurs, Minerva, Patria et Maria Teresa Mirabal, les opposantes politiques brutalement assassinées en République dominicaine le 25 novembre 1960 sur les ordres du dictateur Rafael Trujillo, 1930-1961. En 1999, par résolution 54-134, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 25 novembre Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.
Voilà, c'est intéressant. Peu de monde le sait que ça vient au sujet des assassinats de trois sœurs Mirabal. Vous voyez, donc c'est de la République dominicaine. Et ensuite, ça a été repris par l'Assemblée des Nations Unies. Mais on va faire un petit tour d'histoire au sujet de ces assassinats.
Les sœurs Mirabal rendent des visites hebdomadaires à leurs maris incarcérés. Des bruits circulent sur la possibilité qu'elles pourraient être les victimes d'un accident de la route, un euphémisme qu'utilisait la dictature quand elle ordonnait la disparition d'un adversaire important avec l'intention de maquiller le crime. L'assassinat des sœurs Mirabal avait été ordonné et les exécuteurs étaient membres du service militaire de Trujillo. Le 25 novembre 1960, les sœurs Mirabal, après la visite à leur mari, partent à bord d'une jeep en direction de leur maison, mais elles sont arrêtées par un autre véhicule à coups de rafale de balles. Amenées loin de la route dans un endroit discret, elles sont assassinées à la machette. Leurs corps sont replacés dans la jeep qui les transportait pour être ensuite jetés du haut d'un précipice qui borde la route. Une plaque commémorative est installée deux rue de Prony à Paris 18e.
Voilà, donc à Paris, comme j'avais indiqué à Antoine, notre technicien, il y a une plaque à Paris pour se souvenir de ces sœurs qui ont été assassinés en République dominicaine pour un dictateur vraiment cruel qui a gouverné, entre guillemets, 31 ans, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui, 1930 à 1961.
Voilà, voilà. C'est pour cela que nous allons faire une pause musicale avec une femme qui chante, Maria. Marie a pris le chemin pour faire la révolution. Voilà, c'est ça qu'ils ont fait, les sœurs Mirabal, et elles ont été assassinées. Il faut faire attention. Et nous allons parler des élections au Chili, Béatrix.
Oui, l'extrême droite au port du pouvoir. La candidate de gauche est arrivée en tête du premier tour, mais 70% des électeurs ont voté pour l'un des candidats de droite et d'extrême droite. Derrière un pupitre protégé par une vitre blindée, José Antonio Kast, candidat d'extrême droite à la présidence chilienne, a des raisons d'exulter. Pour sa troisième candidature après celle de 2017 et 2021, tout indique que cet avocat de 59 ans, plusieurs fois député, père de 9 enfants et admirateur d'Augusto Pinochet, 1973-1990, remportera la présidentielle 35 ans après la fin de la dictature. La candidate de la gauche, Jeannette Jara, 51 ans, est pourtant arrivée en tête du premier tour qui s'est tenu le 16 novembre dernier. Mais avec 26,9% des voix, l'ancienne ministre du Travail du président Gabriel Boric ne devance que de 3 points, José Antonio Kast, 23,9%. Et il lui faudra désormais un miracle pour trouver des réserves de voix et s'imposer au second tour prévu le 14 décembre prochain. À l'annonce des résultats, Kast, un catholique fervent, a avant tout remercié Dieu.
Oui.
Charismatique et ouverte au dialogue, Jeannette Jara a été desservie par son appartenance au Parti communiste et n'a pas réussi à capitaliser sur ses réussites en tant que ministre du Travail entre 2022 et 2025. Réduction du temps de travail, hausse du salaire minimum, réforme des retraites, un bilan qui n'a pas suffi face au sujet de campagne imposé par l'extrême droite, l'immigration et l'insécurité.
Oui, c'est bien triste que le Chili avait choisi un président de gauche, un jeune président, tandis que là, il y a la possibilité qu'un homme de 59 ans, comme vient d'indiquer Béatrix, catholique pratiquant et admirateur de Pinochet, soit à la présidence. Donc peut-être il y aura des Chiliens qui vont partir et prendre l'exil en France. Thank you. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission L'Autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Et nous allons parler d'un grand pays où il y a eu la COP 30, mais après aussi on va parler d'un sujet justement autour du Brésil. Béatrix ?
Oui, c'est dans le journal Challenge. Sur un air de renouveau. Après l'isolationnisme de Bolsonaro, le pays, hôte de la 30e conférence sur le climat, signe son grand retour sur la scène internationale. Il résiste à Trump, préside le Mercosur et attire les touristes du monde entier. Au Brésil, está de volta. Lorsque Lula da Silva prononce ces mots, le Brésil est de retour. Lors de la conférence mondiale sur le climat en Égypte en 2022, un tonnerre d'applaudissements retentit dans la salle. L'intervention de Lula da Silva, ancien syndicaliste, survient à peine 2 semaines après sa victoire à l'élection présidentielle face à Jair Bolsonaro. L'enthousiasme du public reflète l'espoir qu'une partie du monde place dans la victoire de Lula da Silva. Le retour du Brésil sur la scène internationale après 4 années marquées par l'isolationnisme de son prédécesseur d'extrême droite et l'hostilité de son administration à l'encontre du multilatéralisme et de l'Europe. S'il était ajouté l'indifférence envers l'Amazonie et les peuples indigènes, son admiration pour la dictature 64-85 ainsi que la dérégulation sur les armes à feu, un cocktail qui avait achevé de faire du pays un paria sur l'échiquier mondial. Depuis son investiture en janvier 2023, Lula da Silva n'a pas déçu. Le Brésil a retrouvé un rôle géopolitique de premier plan qui lui revient en raison de la taille du pays et de sa position stratégique en Amérique latine, souligne Marco Cavallo, politiste. Le président brésilien a fait de la défense de l'environnement une priorité en accueillant la COP 30 en Amazonie du 10 au 21 décembre à Belém. Il a aussi lancé l'Alliance globale contre la faim et la pauvreté pour éradiquer l'insécurité alimentaire à l'échelle planétaire.
Oui, et comme Béatrice l'a indiqué, c'est un numéro de Challenge qui consacre une grande partie de sa revue au Brésil. Et c'est vrai que Lula a réussi à se faire entendre un peu partout et même... Parfois, il a tenu tête à un type qui s'appelle Trump aux États-Unis.
Com todo
rythme brésilien pour danser. Mais en dehors de ce succès de Lula, il y a aussi les peuples autochtones qui
oui.
réclament un peu pendant ces COP30, n'est-ce pas, Béatrice ?
Oui, qui devient un enjeu existentiel pour eux. Loin de vouloir faire de la figuration, les peuples autochtones entendent peser sur les résultats d'un sommet qui les concerne au premier chef. Leur colère a éclaté sous les yeux des caméras. Plusieurs dizaines de manifestants ont forcé l'entrée de la zone ultra-sécurisée de la conférence. Parmi les protestataires se trouvaient de nombreux représentants des peuples autochtones. Vêtus de coiffes à plumes et de peintures rituelles, ils comptaient faire entendre leurs revendications dans le sommet. C'est loin d'être le seul acte de protestation pour les Amérindiens, qui sont environ 5000 à avoir convergé à Belém, bien décidés à bousculer l'ordre du jour de cette grande messe climatique. Objectif, dénoncer un décret facilitant la navigation commerciale sur plusieurs fleuves amazoniens menaçant leurs sites sacrés et les écosystèmes. La COP30 aurait dû être un moment de consécration pour les peuples autochtones placés au cœur de l'agenda politique du président Lula. La démonstration de force la plus impressionnante concerne les Yanomami, le célèbre peuple amazonien qui occupe la plus grande terre indigène du Brésil, a été frappé par une crise humanitaire effroyable. Invasion de 20 000 chasseurs d'or, empoisonnement massif au mercure, paludisme meurtrier. Une opération sécuritaire et humanitaire d'envergure a été menée en sa faveur, permettant de réduire de 98% les zones d'orpaillage. Mais l'espoir a cédé la place à la colère. Les peuples autochtones restent la cible d'une violence impitoyable.
Et d'autant plus que, loin de vouloir faire de la figuration, les peuples indigènes entendent peser sur les résultats d'un sommet qui les concerne au premier chef.
Olha o samba, meu amor. Meu coração vem chegando sem licença pelos pés e pelas mãos, com personalidade original, com personalidade original. Mais um samba, por favor, preste atenção na medida, no compasso da alegria na geral. Todo canto da cidade de balanço natural. Todo canto da cidade de balanço natural. E o samba brasileiro não tem nome, não tem grana, não tem dono, tem parceiro. Vem do alto, vem do morro, do swing no pandeiro. Não tem nome, não tem grana, não tem dono, tem parceiro. Vem do alto, vem do morro, do swing no pandeiro. Olha o samba, meu amor. Meu coração vem descendo meio fio, vem se instalando pelo chão.
Encore brésilien. Mais du Brésil, nous allons partir en Colombie, en France, par rapport à la France aussi, n'est-ce pas, Béatrix ?
Oui, au sujet du dialogue de sourds sur la cocaïne. C'est un extrait d'un article envoyé par le correspondant du journal Le Monde à Carthagène des Andes. Poivre, paprika, cacao, résidus de plastique. Les étiquettes des petits flacons soigneusement alignés sur la table de la police antidrogue colombienne disent la créativité des trafiquants pour passer de la cocaïne. Dans l'entrepôt du port de Carthagène, le chien Milan fait une démonstration de ses talents et déniche un petit paquet de poudre blanche entre les dizaines de cartons fraîchement déballés d'un conteneur. L'amiral Carlos Oramas explique que tous les conteneurs sont scannés avant d'être embarqués sur les navires. En visite en Colombie, le ministre français Jean-Noël Barrot s'est félicité des résultats exceptionnels de la coopération avec les autorités colombiennes en matière de lutte contre la drogue. Le problème trouve son origine dans la région des Caraïbes. C'est donc ici qu'il faut venir éradiquer le mal à la racine, déclare M. Barrot. À l'occasion de sa tournée latino-américaine entre le 6 et 10 novembre, qu'il a aussi menée au Mexique, Jean-Noël Barrot a présenté son plan de bataille pour lutter contre le narcotrafic. Celui-ci repose sur la signature de nouveaux accords de coopération bilatérale dans la région, l'augmentation de 20% des effectifs des ambassades spécialisées dans la lutte contre le narcotrafic et la création d'une académie régionale pour former des agents locaux et sur la proposition d'un régime européen de sanctions contre les narcotrafiquants et les criminels.
N'oubliez pas, vous êtes à l'écoute de l'émission L'Autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Et nous allons vous donner une information positive, quelque chose de surprenant, n'est-ce pas Béatrix?
Oui, il s'agit entre le Canada et le Chili.
Oui.
Soraya Martinez Ferrada, de réfugiée chilienne, à maire de Montréal. L'ex-ministre de Justin Trudeau est devenue la première femme issue de l'immigration à diriger la plus grande ville du Québec. En ce mois de novembre, Soraya Martinez Ferrada découvre le bureau qu'elle occupera pendant les 4 prochaines années. La nouvelle maire cherche encore ses marques dans cette salle aux murs boisés et grandes fenêtres donnant sur le cœur historique de la ville. Née au Chili en 1972, elle est arrivée à l'âge de 8 ans au Canada après avoir fui avec sa mère la dictature d'Augusto Pinochet. Des militaires dans la rue, l'ambiance générale, le sentiment d'injustice sont autant de souvenirs qui lui restent de ces années sombres. Accueillie au Québec en tant que réfugiée politique, Soraya Martinez cite ses grands-parents militants comme source d'inspiration de son engagement politique. Elle fera d'abord ses armes comme conseillère municipale à Montréal, avant de rejoindre le Parlement à Ottawa, et de devenir en 2023 la ministre du tourisme de l'ancien président-ministre Justin Trudeau. Celle qui se qualifie de progressiste pragmatique assure ne pas avoir fait campagne sur son identité, mais plutôt sur du renouveau pour Montréal, une ville qui s'est repliée sur elle-même et qui a besoin de rêver, selon la nouvelle édile de 53 ans. Crise du logement, augmentation du nombre de sans-abri, embouteillage. Les défis sont nombreux dans la plus grande métropole du Québec.
Voilà, donc il y a une réfugiée chilienne qui elle a été élue pour être maire de Québec. C'est ça, Béatrix?
Pour être maire au Québec, oui,
Montréal.
À Montréal.
Montréal. Donc il y aura peut-être un Chilien, d'origine chilienne, qui pourrait être candidat à la mairie de Périgueux.
Thank you.
Avec des rythmes de la musique folklore chilienne, notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ces continents latino-américains. Merci à Béatrice qui nous a livré des infos et merci à Antoine à la technique. Muchas gracias, hasta pronto.
Corazón descontento, latió con pena en Temuco y me ha llorado en calco de frío por escarcha. Voy en derecho mi marcha a la cuesta del Chacao. Mi nervio dejó en graneros la sangre en San Sebastián. Y en la ciudad de Chillán la calma me bajó a cero. Mi riñón nada en cabrero, destruye una camina. Desembarcando